Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes le mercredi 3 mars et comme d'habitude, à mes côtés, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Comment vas-tu ?
Écoute, je vais très bien. On a eu plaisir d'écouter l'histoire, l'enfance et la jeunesse de Claire Michel et ses débuts dans le triathlon. Et je suis assez impatient d'écouter le reste. On en était resté au fait que Claire, tu voulais aller aux Jeux Olympiques, mais tu devais d'abord t'acheter un vélo.
Voilà, c'est ça.
Donc je suis impatient d'écouter le reste.
Comme tu le dis, Olivier, nous avons la chance cette semaine d'avoir une invitée, à savoir Claire Michel. D'ailleurs, Claire, bonjour.
Salut, salut.
Comme le disait Olivier, hier, nous avons abordé déjà une première partie de ta présentation avec ton enfance et tes débuts dans le triathlon. Est-ce qu'on pourrait revenir maintenant sur ce qui t'a emmené vers les Jeux de Rio 2016 ?
Donc effectivement, j'expliquais hier que j'ai fait quelques triathlons fin 2012, début 2013 en Belgique. Et là, j'ai rencontré le directeur technique qui m'a invité pour aller faire des stages de triathlon. Et donc, du coup, j'ai été acheter mon premier vélo, qui est un Ridley. Et là, j'ai fait les premiers stages. Mais je pense qu'au début du triathlon, déjà, c'est un gros investissement. Il faut s'y retrouver aussi dans tous les matériels, parce que c'est pas que le vélo, c'est le casque, c'est les chaussures, c'est les cales, c'est comment le mettre, c'est la position sur le vélo. Même les chaussures course à pied, il faut des élastiques spéciales pour les, après il faut travailler les transitions, la combi de natation. Donc, en fait, il y avait vraiment un très, très gros apprentissage technique. On peut dire que voilà, j'ai fait de la natation auparavant et j'ai fait de la course à pied. Mais c'est pas le même sport, il y a rien à faire. C'est l'enchaînement des trois, c'est apprendre à gérer les trois disciplines. Je pense au début quand j'ai commencé à vélo, si j'avais des crampes tout le temps, parce que c'est juste des autres, on travaille un peu les autres muscles d'une autre manière, etc. Donc il y avait vraiment un gros apprentissage et j'étais en stage et j'avais 23 ans, je pense, et 23 ou 24 et la majorité des autres, c'était des jeunes élites ou des jeunes espoirs belges. Mais qu'est-ce que j'ai posé des questions, mais à 16, 17, 18 ans, 19 ans. Mais ils avaient peut-être 5, 6, 7 ans de plus d'expérience que moi. C'était incroyable parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commencé le triathlon. Ils connaissaient déjà à leurs 12, 13 ans. Donc, c'était vraiment un gros apprentissage. Et voilà, c'est un peu compliqué au début, mais on s'y trouve petit à petit.
Ok, donc là, 2012, 2013, tu commences le triathlon, tu as un objectif, tu l'as clairement dit au DTN, donc au directeur technique national, c'est Rio. Bon, on passe sur les 4 ans qui suivent et tu arrives à Rio. Finalement, tu arrives à te qualifier pour aller à Rio. Allez, on prend 2 minutes sur la qualif pour Rio, s'il te plaît.
Donc, en fait, la qualification pour les Jeux Olympiques, en fait, ça dure 2 ans. Je vais essayer de simplifier parce que c'est un peu compliqué, mais ça dure 2 ans. Ça commence en mai, par exemple, 2014, et ça se termine en mai 2016. Il y a un ranking olympique qui se fait sur base de points. Et en gros, c'est le top 55 mondial dans ce ranking avec un maximum de 2 ou 3 par pays qui peuvent y aller. Et donc, voilà, moi, je n'étais pas ranking zéro, quoi. Je n'avais pas de ranking vu que je n'avais pas encore fait de course internationale. Donc, on avait vraiment un gros chemin à faire. Et en fait, le directeur technique m'a présenté, si tu veux, une stratégie de course. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a les World Series, ce qui est le plus haut niveau. Ensuite, en tout ça, il y a des Coupes du Monde. Et en tout ça, il y a des Coupes continentales. Donc, les Coupes d'Europe, des Coupes d'Asie, etc. Je pense que j'ai fait 2 courses en Belgique, le championnat de Belgique, et après, j'ai fait ma première Coupe d'Europe. On a un peu brûlé les étapes, et il m'a dit, écoute, tu risques d'être 50e à ta première course, ce qui était plus ou moins le cas. Et donc, j'ai vraiment ce souvenir de cette première Coupe d'Europe, qu'en fait, j'arrive, bon, je nage, encore, ça va encore. Je sors entre le premier pack et le deuxième pack. Donc, il faut savoir qu'en... dans tout ce qu'on fait, c'est avec drafting autorisé. Donc, ça veut dire que les vélos peuvent se suivre. On peut rouler en peloton, comme dans le Tour de France, sauf qu'on n'a pas encore, on n'est pas vraiment à leur niveau non plus. Donc, ça change tout à fait la dynamique des courses. Ça veut dire que si on nage, par exemple, 20 secondes trop lent en sortant de l'eau, ben, peut-être qu'il y a déjà un peloton qui s'est formé, qui est parti. Et là, c'est très, très dur, sauf si on est vraiment très fort à vélo, de pouvoir rattraper ce retard qu'on a pris en natation. Et donc, en fait, ces petites secondes de natation sont très, très importantes. Ça fait aussi que les transitions sont très, très importantes. Donc, il faut pouvoir vraiment sprinter à fond en sortant de l'eau. Mettre son casque immédiatement, sortir de sa combi de natation, sauter sur son vélo avec les chaussures qui sont déjà dessus, mettre les deux pieds dedans, slap, plop, et commencer directement à pédaler et aller à bloc pour rattraper le peloton. Donc cette première course, moi je me retrouve entre le groupe de tête et le deuxième gros peloton. Mais j'avais jamais roulé dans un peloton dans ma vie. Et donc, d'un coup, il y a 30 filles comme ça qui viennent derrière moi, mais de tous les côtés. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est, quoi, ce truc? J'avais vraiment peur. Je me dis, mais c'est... En plus, ça se bousculait dans tous les sens. C'était un parcours un peu technique, donc il y avait beaucoup de virages et tout ça un peu... Parce que souvent, c'est des petits circuits de 3, 4, 5 kilomètres. Avec plusieurs boucles. Et donc, du coup, moi, je me dis, mais wow, ce truc, c'est pas pour moi, quoi. J'ai eu vraiment peur. Je pense aussi, c'est que souvent, avant ça, je n'avais pas trop roulé en groupe. Et j'ai eu la malchance de les premiers 4-5 mois que j'ai eu un vélo, j'ai fait une chute tous les 3-4 semaines. Je ne me suis pas fait super mal. J'ai jamais eu vraiment une... Enfin, maintenant, oui, mais... C'était pas des grosses chutes à vélo, mais c'était tous les trucs au début où, par exemple, je disais les cales, par exemple. On arrive à un stop, on n'arrive pas à déclipser, attends, et on tombe sur le côté.
Où... Tu vois, Olivier, il n'y a pas que moi qui tombe tout le temps.
Ça arrivé à tous les cyclistes.
Ça arrive à tous les cyclistes, voilà. Mais bon, c'est des petites choses. La porte qui s'ouvre d'une voiture qui est garée sur le côté, on passe trop proche. La ligne blanche quand c'est mouillé.
Tu les as toutes faites, quoi.
Quand il y a un peu de sable ou quelque chose qu'on ne voit pas ou un gros trou et on le prend mal et voilà. Donc, toute cette chute-là a fait que j'étais déjà fort refroidie par rapport au vélo. Et en Belgique, il pleut souvent, tu sais. Donc, Mais tu vois, en course à pied, s'il pleut, c'est pas grave. Je me rendais pas compte au début. Voilà, ça paraît très bête, mais c'est toutes des petites choses comme ça qu'on apprend au tout début. Mais ça m'a vraiment refroidi du vélo et donc vraiment j'ai ce souvenir des premières courses, d'apprendre à rouler en peloton. Je me souviens que je me suis sortie de là et j'ai dit waouh, il faut absolument que je m'entraîne à faire ça, que j'apprends à rouler dans les roues, que je sais comment. Tu vois que si quelqu'un me touche les coudes en vélo, ben que c'est pas grave, qu'il faut être souple, qu'il faut être relâché sur le vélo. Mais bon, quand on est un peu anxieuse ou nerveuse, c'est facile à dire, sois relâchée, mais le faire en pratique, c'est encore autre chose. Voilà encore le travail de Jean qui revient.
Ouais, on va y revenir justement après, parce que tu mets bien en situation et on pourra reparler justement toute la préparation mentale qu'il y a autour de ça. Mais donc du coup, ça, c'est tes premières courses qui sont un peu difficiles. Et finalement, la route jusqu'à Rio, tu nous disais que c'était les 55 premières femmes au ranking qui étaient qualifiées pour aller aux Jeux Olympiques. T'en étais pas si loin.
Donc la course à pied reste c'était mon point fort. Donc, c'est-à-dire que si la situation de course faisait que je déposais le vélo avec le groupe de tête ou tout près du groupe de tête, j'avais souvent la possibilité de courir pour un podium ou un top 5 ou quelque chose comme ça. C'est ça qui me donnait beaucoup de points. Par contre, si je nageais 15 secondes trop lent et que j'étais dans le deuxième groupe ou que j'ai eu peur à vélo et je me fais lâcher par le groupe, tu veux bien courir, mais au très haut niveau.
Oui, une minute sur 10 000 à très haut niveau, oui, c'est fini, quoi, t'es loin.
Oui, les autres courent vite aussi. tout le monde s'entraîne, donc non, c'était très compliqué et ça a fait aussi que j'ai dû vraiment me battre jusqu'à la fin. De la qualification, j'ai fait presque toutes les courses pour essayer de grappiller tous les points possibles pour y arriver. Donc heureusement, ça a quand même, j'ai réussi à le faire, mais il y avait des hauts et des bas, ça c'est sûr. Et comme je disais, il fallait rattraper un retard d'expérience sur très très peu de temps. Il fallait pas avoir peur non plus, d'accepter que j'étais 35e ou 40e ou j'ai pas eu des podiums tout de suite, ça c'est sûr. Et il fallait pas trop se laisser démoraliser par ça. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi avec le triathlon, c'est qu'on peut faire parfois une bonne natation. Et après un mauvais vélo, et après peut-être toujours un... Tu vois, il y a toujours des parties qui sont bien dans la course, mais c'est arriver à mettre tout le puzzle ensemble le même jour, ça, c'est pas évident. Et donc, il faut aussi pouvoir prendre de la confiance que même si le résultat n'était pas bon en soi, que le chiffre final n'était pas bon, mais peut-être qu'il y a quand même des parties qui ont montré vraiment du progrès ou l'amélioration et prendre du confiance de ça. Ça, c'était important.
Et comment tu fais pour garder la motivation comme ça quand tu fais des résultats au début qui sont un peu médiocres ou t'arrives dans les derniers, t'as du mal, enfin c'est difficile. Comment tu fais pour garder en tête c'est pas grave, moi je vais au JO de toute façon quoi qu'il arrive.
C'est un paradoxe hein, dans le sport, mais tout ce qui est autour de nous, donc c'est-à-dire les médias, les directeurs techniques, peut-être les sponsors, etc. Eux, ils se concentrent sur les résultats. Donc, ce qui est important, c'est les chiffres, etc. Et en soi, oui, c'est important. Mais moi, je dois mettre 99% de mon énergie, voire 100% de mon énergie. Donc, est-ce que je peux améliorer mon processus et ma façon de faire les choses? Et je me souviens une fois d'avoir eu une discussion avec mon entraîneur à l'époque. Il me disait, oui, il faudrait faire une 17e place pour avoir 280 points. Et comme ça, tu peux monter dans le ranking tel et tel. Et je suis là, écoute, si je cours pour la 3e place ou la 30e place, je vais quand même essayer de faire mon mieux. Donc, j'ai dû lui dire, en fait, d'avoir un peu un détachement mental du résultat de la performance. Parce que le plus que moi, je me concentre sur ma performance et la manière que moi, je peux faire les choses, le mieux, c'est souvent. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Jean, de pouvoir se focaliser sur le moment présent. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai le contrôle, c'est là où j'ai le maîtrise. S'il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi qui gagne, ben voilà, OK. Moi, j'ai pas de contrôle sur ce résultat-là, mais ce que je peux contrôler, c'est vraiment, et ce que je peux maîtriser, et c'est d'améliorer surtout, c'est ma performance et ma manière de faire les choses, que ce soit à l'entraînement ou dans une course. Voilà, j'ai vraiment essayé de me focaliser là-dessus, et ça a été vraiment une transition, parce que je suis quelqu'un à la base qui est plutôt perfectionniste, et perfectionniste, en fait, c'est un peu catastrophique dans le sport. Et c'est plutôt la recherche de l'excellence qu'il faut faire, et ça, c'est une distinction très, très importante. Parce que voilà, la perfection n'existe pas. Il n'y a pas une course parfaite. Donc pour moi, la motivation, elle vient en fait. Je l'ai eu en fait cette saison. Je reviens d'une grave accident du genou et je finis une Coupe du Monde la saison passée et j'étais 14e, ce qui n'est pas extraordinaire pour moi. Mais j'étais tellement fière de la manière que j'ai fait la course parce que c'était vraiment une amélioration. Et là, c'est quelque chose qui vient de justement d'avoir son énergie sur sur le processus et pas sur le résultat.
Donc c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que finalement ça s'applique en fait bien au-delà du simple triathlon. Hein, c'est de pouvoir se fixer effectivement des objectifs sur le long terme. Où, oui, on va parler de résultats à terme parce que typiquement une qualification pour les JO, bah oui, on parle de résultats. Mais par contre, effectivement, au jour le jour et dans le moment présent, se focaliser sur le processus parce que quelles sont les actions qu'on doit faire dans l'immédiat pour pouvoir atteindre cet objectif à long terme. Donc ça, je pense que c'est une distinction qui est super importante, que ce soit dans le sport ou même dans d'autres domaines.
Et je dirais aussi, je rajouterais aussi que aller du jour au jour, parce que c'est souvent un travail qui est répétitif, qui demande beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie aussi. Et donc, le plus qu'on arrive à réduire, diviser, je dirais, les étapes et les objectifs en vraiment des choses assez petites. On ne demande pas de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'un coup. Parce que, en fait, ça, je trouve que ça peut être très, très stressant. Presque, c'est trop grand. Donc, il faut que c'est quelque chose que je peux réussir à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quand je réussis aussi à des petits objectifs, ben voilà, on est content. Et donc, du coup, s'il y a un mécanisme aussi comme boule de neige, donc si on se fixe des très petits objectifs et qu'on les réussisse, ben voilà, on peut être fier de ça et ça donne une énergie pour attaquer le prochain petit objectif.
J'ai du mal à transitionner là-dessus parce que c'est beaucoup de messages très inspirants. On n'est pas encore arrivé à Rio, mais on arrivera dans l'épisode de demain et puis surtout on va voir un petit peu ce que vous avez mis en place et quelle a été l'approche de Jean et puis surtout comment est-ce que le sportif aborde l'approche d'un préparateur mental quand il se rend compte qu'il va avoir besoin d'un préparateur mental ou quand quelqu'un lui dit écoute, va voir un tel, c'est un bon coach mental et on va voir ce que ça donne. Donc, Claire, Olivier, je vous donne rendez-vous demain.
À demain.
À demain.
Ciao. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.